Et si on en parlait, une émission parrainée par Hydropièce, concepteur de solutions hydrauliques, zone industrielle des Gravasses, Villefranche de Rouergue. Quand il y a de l'eau dans le gaz, une seule adresse, Hydropièce. Et bonjour, une nouvelle émission de « Et si on en parlait ?» et c'est la première pour 2015.
Première de l'année.
Bonne année à tout le monde.
Belle et heureuse année à tous les auditeurs.
Bonjour Cathy.
À toi Michel, bonjour Michel. Bonjour à toi Lisa. Bonjour Lisa.
Salut,
et alors, bonne année. Alors on a invité voilà, qui est à côté, mais on ne va pas dire tout de suite qui c'est.
Non, on va s'occuper de son prénom pour commencer. Je suis allée rechercher un petit peu sur Internet l'origine et la signification du prénom Bernard. Le prénom Bernard tire sa racine des termes germaniques « ber » signifiant « ours » et « ad » qui signifie « courageux ». Durant le Moyen-Âge, Bernard fut l'un des prénoms les plus populaires en Europe. Il faisait alors référence à l'ours, divinité païenne dont la protection était recherchée. Ce prénom perdit de sa notoriété à la fin du XVIe siècle, pour ne revenir à la mode qu'à partir de 1920. Il a ainsi fait partie des 10 prénoms les plus populaires en France durant 20 ans. Alors, un petit peu le caractère de Bernard. Le courage et la virilité de Bernard sont incontestables. Rigoureux et perfectionniste, Bernard va jusqu'au bout de ce qu'il entreprend et déteste perdre son temps. Il exige souvent des autres ce qu'il s'impose à lui-même. Cela dit, derrière son tempérament d'ours, fort et exigeant, se cache un cœur tendre et passionné. Bernard est doté d'une grande volonté et a un sens aigu des responsabilités. Bernard recherche avant tout la paix et l'harmonie. Épris de perfection, il est sensible à la beauté et à l'harmonie. Il peut lui arriver d'être indécis ou perfectionniste, tant est développé son souci du détail. Cela peut se traduire par une recherche exacerbée de la précision, de la ponctualité ou encore par une grande conscience professionnelle. Bernard est un constructeur avant tout. Les états de crise prolongés lui apparaissent vite comme des complaisances auxquelles il ne saurait se tenir. Partout, à tout moment, il entreprend. Il entreprend beaucoup. Il n'est rien tant que l'inachèvement pour le faire réellement souffrir. Il aime les choses nettes, accomplies. Elles permettent d'aller plus loin et d'entreprendre encore et encore. Alors Bernard, bonjour. Alors on a Bernard Lauriac avec nous. Bonjour Bernard.
Bonjour.
Et belle et heureuse année à toi aussi.
Bonjour Cathy, bonjour bonne Michel. Année. Bonne année, oui, tout à fait. Mais c'est le portrait de Bernard de Clairvaux ou le mien?
Non. Des Bernards en général. Voilà.
Parce qu'il est flatteur pour moi. Je ne me reconnais pas tout à fait là quand même.
Les gros traits de caractère, les principaux. Après, oui. Bien évidemment, tous les Bernards ne sont pas identiques.
Oui.
Les traits principaux. Tu te reconnais un petit peu ou pas?
Un
dans
peu,
le fait
oui.
d'entreprendre. Enfin, je te connais un petit peu quand même. Dans le fait d'entreprendre, je pense qu'il y a quand même des choses, pas que là-dedans, hein. Mais
Oui, j'aime bien entreprendre, j'aime bien diversifier les engagements, oui.
Et puis côté virilité, les auditeurs ne le voient pas, mais il a une grosse barbe, donc tout va bien, c'est ça. Et on a un point commun, parce que moi je suis cette année du signe de l'ours, signe les bers, donc c'est ça. Voilà.
D'accord.
Alors, on va essayer de te connaître mieux. On va te poser plein de questions indiscrètes. Alors, si tu veux pas répondre, tu réponds pas, on s'en fout. Je veux savoir ta date de naissance, ton lieu de naissance exact, le jour, tout ça.
Alors, 17 avril 43, à Villefranche de Rouergue. Voilà. Donc, oui, je suis très attaché à ma ville, à ma région. Et donc mon père était maraîcher, j'ai passé mon adolescence un petit peu au jardin de mon père, mais il m'a pas assez intéressé
À la terre.
Oui, à la terre. Ouais. Et donc maintenant là, j'ai à part les fleurs que je cultive dans mon terrain, je fais pas de légumes.
C'est déjà pas mal.
Tu allais à l'école donc à Villefranche.
Oui, voilà. J'étais à l'école à Villefranche.
Maternelle, tout ça.
Oui.
Jusqu'où tu allais au niveau école?
Eh ben après, donc j'ai été jusqu'au bac à Villefranche et puis après je suis parti à Toulouse. Je l'ai eu. Oui,
bac
oui.
Quoi?
Bac littéraire.
Et qu'est-ce qui t'intéressait le plus à l'école?
Alors l'histoire.
Tiens, tiens, comme c'est bizarre. Je m'en serais un petit peu douté quand même.
Et oui, oui, puisqu'après j'ai fait une licence d'histoire-géographie. Enfin, plus d'ailleurs la géographie que l'histoire.
D'accord.
Je suis plus géographe qu'historien. Mais les deux m'intéressent, les deux me passionnent. Et je crois que c'est important parce que pour comprendre le monde actuel, si on n'a pas ces deux bases, on ne comprend rien à ce qui se passe.
Ouais.
Il faut connaître les civilisations, il faut connaître l'histoire contemporaine, mais aussi...
Oui, savoir d'où on vient, quoi.
Oui, savoir d'où on vient.
Ouais, je pense que c'est important, oui, je suis d'accord.
Absolument.
Et après le bac, alors, tu y allais où? Tu as fait quoi?
Eh bien, après, j'étais en fac à Toulouse, j'ai fait une licence d'histoire-géographie.
Ah, voilà.
Et il est devenu professeur d'histoire.
Et tu étais professeur d'histoire.
Voilà, oui.
Très connu à Villefranche-de-Rouergue.
Eh bien, j'ai commencé à Dunkerque. Hein,
oh, c'est
oui,
vrai.
Oui, j'ai fait 5 ans à Dunkerque. Hein. Donc après le CAPES, donc on m'envoyait là-haut.
Ah,
je m'y suis plus d'ailleurs. D'accord. On a failli acheter une maison là-bas parce que je me plaisais dans le Nord. Mais bon, mes parents étaient à Villefranche, mais donc j'ai qu'une sœur qui était en Corse, donc je me suis dit ça va poser des problèmes s'ils sont malades, tout ça, on est loin.
Tu as préféré te rapprocher.
Et donc oui, et puis j'étais attaché aussi à ma région, donc ça me gênait pas de revenir dans le coin. Voilà.
Et quand tu dis « on », c'était déjà avec... tu étais déjà
ah
en
oui,
couple?
Ah j'étais marié avec Christiane, oui.
Oui,
oui.
Marié donc. Très tôt.
Et c'était... Quel âge j'avais? 23 ans. Voilà. Oui.
Super, bravo, félicitations. C'est une affaire qui marche.
Oui, 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 ça marche.
C'est chouette. Tant
tu
mieux.
Sais l'origine de l'Auriac? Du nom, l'Auriac?
L'Auriac, bon, les mots anac, l'Auriacum, ça doit venir, je pense, d'Europe centrale, ça.
Ah bon.
Oui.
Les origines là-bas?
Je sais pas, mais non, mais je me suis jamais tellement intéressé à
l'arbre généalogique.
Hein. Non. C'est pas mon truc, ça.
Oui, parce que les maraîchers, les arbres, c'est vrai que c'est pas très...
je sais pas, mais... Non, je m'intéresse plutôt à l'histoire générale, à ce qui... pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui...
Oui. La généalogie, c'est important.
Oui, mais ça m'a jamais intéressé. Non, j'ai jamais fait ça.
Oh, c'est pas tout à fait la même histoire, quand même. Pas tout à fait.
Mais si, au niveau historique, il y a les descendants, les machins, aussi.
Oui,
il y a
oui.
Quand même les capacités,
non, mais c'est pas mon truc, ça.
Toi, c'est plus la géographie, quand même.
Histoire et géographie.
Non, les deux.
Ah ouais.
Les deux.
Et comment ça s'est passé toutes ces années à Villefranche, alors? Les souvenirs, quand tu étais prof? C'est quoi? C'est des bons souvenirs ou des...
C'est des bons souvenirs.
Il doit y avoir de tout, non? Parce que...
C'est des bons souvenirs, oui, il y a de tout. Mais non, dans l'ensemble, mon métier d'enseignant m'a toujours intéressé. J'ai été surtout au tricot, donc en collège. Mm-hmm. J'ai été aussi au lycée. J'ai fait quelques années au lycée. J'ai donné aussi quelques cours à Beauregard. Donc, j'aimais bien les jeunes. J'aimais bien les jeunes. Donc, c'est ça qui est important.
Ça tombe bien, parce qu'on va d'abord écouter l'adolescence.
Oui.
Et après, on en parle de ton adolescence. Tu as choisi ce morceau d'Henri Tachant.
Oui.
Qui passe pas beaucoup... effectivement en radio, mais qui tourne toujours. Il commence à être assez âgé, assez fatigué.
Et oui.
Mais il a fait des chansons extraordinaires et tourne toujours.
Henri Tachant, c'est bien. On l'entend pas souvent. Chouette.
Oui. Bien, on écoute. L'adolescence.
C'est un coin d'herbe folle, de bleu et de chien dents, blotti entre la jungle infernale des grands et le petit jardin tranquille de l'enfance. C'est une île inconnue de vos cartes adultes,
un lagon épargné, une prairie inculte, une lande battue où les korrigans dansent. L'adolescence, l'adolescence. C'est l'échelle de soie, c'est Juliette entrevue, debout dans le miroir, c'est la cousine nue qui s'émerveille et crie au fond de mon silence. C'est un baiser volé à la barbe du temps, c'est deux enfants qui s'aiment à l'ombre d'un cadran, où sous chaque seconde l'immortalité danse. L'adolescence, l'adolescence. C'est toujours, c'est jamais, c'est éternellement. Le cœur au bord des lèvres, le spleen à fleur de dents, et au ventre volcan, l'amour incandescence. C'est je t'aime, on se tient. C'est je t'aime, on se tue. C'est la vallée de la mort, de l'autre côté de la rue, vers les noirs pâturages, la haute transhumance. L'adolescence. C'est les poings dans les poches, fermés à double tour. C'est famille, je vous hais. C'est René à Combourg. Ophélie qui se noie. C'est Lucille qui s'avance. C'est notre diable au corps, c'est le grand monde en route, c'est ce vieux bateau ivre qui reviendra sans doute, les flancs chargés d'oiseaux, de fleurs et d'innocence. L'adolescence, l'adolescence. Que j'y ai jeté l'encre dans ce pays de fous, de chiens tièdes et de cancre. Depuis plus de 20 ans, j'y passe mes vacances. Et comme ce vieillard de 80 printemps qui s'endort un beau soir et qu'on couche dedans son petit. Petit coin de terre de Provence. Couchez-moi, je vous prie, quand viendra le moment. Dans ma terre, mon pays, couchez-moi doucement. En adolescence, en adolescence.
Voilà, c'était
l'adolescence. L'adolescence d'Henri Tachin.
Parle-nous de ton adolescence, un petit peu.
Alors, mon adolescence.
L'adolescence, c'est de quel âge à quel âge, alors, en fait?
Oh.
C'est ça qui est difficile à définir.
Oui. Oh, je dirais entre 15 et 20 ans. Mais maintenant, ça se prolonge, je crois.
Et puis, ça commence un peu plus tôt, peut-être aussi, maintenant.
Ça commence plus tôt.
J'ai une vieille adolescente,
oui, oui,
hein,
oui.
Déjà.
Oui.
Alors, mon adolescence, que dire?
Quel adolescent étais-tu? Facile? Timide.
Oui, plutôt. Oui, alors plutôt timide. Plutôt timide. Je m'intéressais au basket. J'en ai fait pas mal. Oui. Je m'intéressais à l'époque. Donc j'étais à Saint-Joseph et j'ai gardé un très bon souvenir des éducateurs qui m'ont sorti de ma timidité,
d'accord,
qui m'ont poussé à m'engager.
Ah,
et donc, alors je faisais de la GEC, jeunesse étudiante chrétienne,
ouais.
J'étais même au comité départemental de la GEC.
D'accord.
Mais à l'époque, la GEC était en pointe dans l'église, quoi. Elle était assez, assez révolutionnaire.
D'accord.
Et donc, je me souviens de quelque chose qui m'avait passionné. C'est que, on avait proposé, aux autres, parce qu'il y avait une coupure quand même entre le privé et le public, et on avait proposé, au lycée et à Jeanne d'Arc de faire une fête commune. Et ça avait marché.
Ah, c'est vrai?
Ça avait marché, oui, tout à fait. Donc, je me souviens de ça. Ça, c'était une campagne de la GEC qu'ils avaient proposée au niveau national, et nous, on avait suivi. Oui, j'avais organisé ça avec Gasque. Je ne sais pas si vous le connaissez. Maintenant, il est parti. Oui.
Et alors, ça s'est fait une fois ou plusieurs fois?
Une seule fois. Ouais. Oui, mais au théâtre municipal, le monde avait.
Ah ouais.
Ça a été un gros truc là.
Ah, c'est bien ça.
Voilà.
Parents catholiques alors.
Alors oui, plutôt
si
plutôt
catholique,
mais oui. Alors c'était du côté de ma mère surtout. Hein, qui venaient de la campagne, ils étaient 12 enfants, hein, et donc j'avais tous les oncles et tantes à la campagne. Mon père était pas très très catho, mais finalement c'est ma mère qui l'a entraîné un peu. Mais bon,
c'est souvent ça. De toute façon.
Voilà, oui, c'était comme ça. Non, et puis on habitait place des Augustins, à côté de l'église des Augustins, et donc moi j'étais avec les vicaires, j'allais au Valadou en vacances parce que mes parents ils pouvaient pas s'occuper de moi,
d'accord,
pendant l'été.
Et oui, bien
donc
sûr.
J'allais en colonie de vacances au Valadou où se mélangeaient les lycéens et les gens de Saint-Jo.
C'était privé et public étaient mélangés là aussi, hein, pendant les vacances privées. Et public.
Privé et public, oui.
Était mélangé aussi.
J'ai eu Penel comme moniteur, moi, à l'époque.
Ah oui?
Oui.
Et pendant ces colonies, il y avait la messe ou pas?
Non, il n'y avait pas de messe. Il y avait la messe le dimanche, je ne sais pas plus. Non, non, c'était très.
Donc c'était mélangé, c'est bien.
Ah oui, c'était. On faisait beaucoup de jeux. Oui, moi, je me rappelle, j'étais avec Lisouré, avec Mazard, avec des gens comme ça. Oui.
Des gens que les auditeurs connaissent pas forcément, parce que.
Ah bon, oui, non, mais les vieux François connaissent.
Ah si, ils sont connus sur. Ah oui, si.
Maurice Mazard.
Bien sûr.
Connu voilà. Sur voilà. Mille Franchois, oui. Ça, c'est sûr.
Et donc, tu as fait tes communions, tout ça?
Ah oui, j'ai tout fait. J'ai tout fait. Et j'étais.
Communion.
Et donc, et tout ça, à l'époque, il y avait le père Porte qui me passait témoignage chrétien, et à l'époque c'était l'hebdomadaire de gauche qui s'était développé dans la résistance. Mm-hmm. Et donc moi ça m'a tout ça m'a amené quand j'étais étudiant à m'engager à l'UNEF et au PSU.
Tu dis l'hebdomadaire de gauche?
Oui.
Quand même, j'ai entendu parler de gens dont les parents étaient communistes par exemple, qui étaient anti-chrétiennes totalement quand même.
Et oui, alors dans la gauche, après moi j'ai été au PSU, au Parti Socialiste, j'ai fréquenté des francs-maçons, j'ai fréquenté un petit peu des gens d'extrême-gauche quand j'étais à Dunkerque.
D'accord.
Oui, et donc on allait à l'époque au PSU, il y avait pas mal de morts dans les entreprises de sidérurgie qu'il y avait à Dunkerque et tout ça, mm-hmm, on allait distribuer des tracts à la sortie des usines.
D'accord.
Donc j'étais très.
Tu étais engagé très tôt.
À
en
l'époque,
fait.
Oui, assez engagé très tôt. Et engagé. Après, j'étais au. Donc, je suis parti à Dunkerque. Et moi, j'étais au SGEN CFDT, alors que mes collègues étaient plutôt à la FEN. Donc, j'ai toujours été un peu marginal.
D'accord.
Par rapport.
D'accord.
marginal chez les cathos, marginal.
D'accord.
J'ai toujours été. Et là, j'ai connu des militants CFDT à l'Union locale de Dunkerque, qui étaient des gens qui m'ont marqué. Parce que je trouvais que, à côté de mes collègues qui étaient plan-plan, leur famille, leur petit cours, eux, ils étaient engagés, et c'était des gens qui étaient, je me souviens de Jacques Dereau, là, un syndicaliste CFDT qui m'avait, et puis les gens du PSU, je me rappelle effectivement, tout ça m'a énormément marqué. Oui,
d'accord.
Tu as vécu, pardon.
non, moi j'ai depuis tout à l'heure, j'ai une question qui me
vas-y.
Ton côté catho, comme tu dis, c'était forcé quand tu étais plus jeune, ou alors c'est...
Ah non,
est-ce que ça
tout.
A été une évidence pour toi, ou comment ça se passe, comment ça s'est passé,
oui,
de ce côté-là?
À Saint-Joseph, j'ai eu des éducateurs. C'est vrai, moi j'ai rencontré des gens qui, dans les écoles libres, il y avait des curés qui n'étaient pas toujours très nets.
Mm-hmm.
Moi non, c'était pas ça du tout.
D'accord.
À Saint-Joseph. C'était des gens plutôt engagés, qui venaient de milieu populaire. On se réunissait, on discutait de nos problèmes d'ado, hein.
Mm-hmm.
C'était ça.
Ouais.
Donc ils m'ont incité à prendre des responsabilités ça m'a marqué à vie.
D'accord.
Oui. Moi,
quand tu parles d'éducateurs, c'était à cette époque que des curés quand même.
Il y avait presque que des curés, mais il y avait quelques laïcs déjà. Je me souviens d'un prof d'espagnol, avec qui on a été en Espagne jusqu'en Andalousie par le train. À l'époque, le train, c'était une aventure.
Wow.
Oui, et on allait aussi, on faisait des camps dans les Pyrénées, à Portet-Puymorin.
On montait
au Carlite, tout ça, on faisait plein de trucs.
D'accord.
Non, et ça, je ne l'ai pas... À l'époque, quand j'étais dans l'enseignement public, moi, j'aurais voulu qu'on ait un contact autre que des cours.
Ouais.
Et puis, on a fait quelques trucs, des journaux, mais finalement, les
pas profs... suffisamment de concret peut-être pour les élèves.
Ouais. Les profs n'étaient pas tellement engagés avec des jeunes.
Mm-hmm.
Alors que moi, je m'occupais de l'aumônerie de l'enseignement public, et donc là, je me rappelle, il y avait des fils d'instituteurs dont les parents étaient souvent agnostiques, qui venaient à l'aumônerie.
D'accord.
Parce que c'était l'endroit où ils pouvaient parler de leurs problèmes
de
jeunes.
Ouais.
Et il y avait une sœur de la Sainte Famille, qui s'appelait Pierrette Kérade, qui était très, très en pointe à l'époque. Et il y avait 300 gosses à l'aumônerie à l'époque.
Waouh.
Ouais, maintenant il y en a une trentaine, pas plus.
Et ouais.
Bon voilà, c'est une autre époque.
Et
mais vraiment, moi je me suis plus à l'aumônerie. Hein.
D'accord.
Ah oui. Et j'ai rencontré des gens qui ont été marqués par l'aumônerie. Hein.
D'accord. Et ce que tu appelles l'aumônerie, parce que moi je connais pas trop, je suis désolée, je suis un peu...
Alors,
c'était un lieu d'accueil pour les jeunes, c'est ça?
Voilà, c'était un truc catho.
Sorte de MJC catho, quoi.
Oui, ouais. C'est ça.
D'accord. D'accord.
Alors, une parenthèse, donc, on parle de cette époque. Tu as connu la guerre, toi?
Non, j'ai pas fait la guerre d'Algérie.
Non, est-ce que tu as connu la guerre quand tu étais jeune?
Qu'est-ce que tu entends par la guerre?
45,
qu'est-ce que tu entends par connaître?
Je suis né en 43. Donc comment
vas-tu?
Oui.
Non, mais tu es.
J'étais quand même très, très bébé à l'époque.
Oui.
Mais mes parents ont connu.
Voilà, donc, c'était juste pour annoncer la chanson suivante. Les loups sont entrés dans Paris.
Oui.
Parce que c'est un double engagement quand même.
Alors, les loups sont entrés dans Paris. Je l'ai choisi.
Reggiani, d'ailleurs, Serge.
Oui, Reggiani. Alors, effectivement, ça évoque le nazisme. C'est très clair. Mais je dis que aujourd'hui, moi, ça m'a fait penser. Donc, je suis engagé encore au Parti Socialiste. Ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est le Front National. Mm-hmm. Et pour moi, les loups, pour moi, ça évoque le Front National, quoi. Si vraiment, demain, on avait une évolution vers l'extrême droite.
Voilà, il y a une chanson de Pierre Perret qui s'appelle « La bête est revenue », qui dit exactement ce que tu es en train de dire. Ah. On écoute, hein, et on en parle après.
Oui.
Alors donc, les loups sont entrés dans Paris. Serge Reggiani.
Et si c'était une nuit comme on n'en connut pas depuis 100 000 nuits? Une nuit de fer, une nuit de sang, une nuit... Un chien hurle. Regardez bien Jean de Denfert, regardez-le. Sous son manteau de bronze vert, le lion tremble. Les hommes avaient perdu le goût de vivre et se foutaient de tout. Leur mère, leur frangin, leur nana, pour eux c'était que du cinéma. Le ciel redevenait sauvage, le béton bouffait le paysage d'alors. Les loups étaient loin de Paris, en Croatie, en Germanie. Les loups étaient loin de Paris, j'aimais ton rire, charmant Elvire. Les loups étaient loin de Paris, mais ça fait ses 50 lieues dans une nuit à queue-leu-leu. Dès que ça flaire, une ripaille de mort sur un champ de bataille. Dès que la peur hante les rues, les loups s'en viennent la nuit venue. Alors, les loups, oh, oh, les loups ont regardé vers Paris, de Croatie, de Germanie. Les loups ont regardé vers Paris. Oh, tu peux rire, charmante Elvire. Les loups regardent vers Paris. Et voilà qu'il fit un rude hiver, sans congestion en fait d'hiver. Volets clos, on claquait des dents, même dans les beaux arrondissements. Et personne n'osait plus le soir affronter la neige des boulevards. Alors, de loups, oh, 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 de loups sont entrés dans Paris, l'un par ici, l'autre par Ivry, de loups sont entrés dans Paris, oh, tu peux rire, charmante Elvire, de loups sont entrés dans Paris. Le premier n'avait plus qu'un œil, c'était un vieux mâle de Crivoy. Il installa ses 10 femelles dans le maigre soir de Grenelle. Et nourrit ses 200 petits avec les enfants de Passy. Alors, sans l'eau, oh, oh, sans l'eau sont entrés dans Paris. Soit par ici, soit par Ivry, sans loup sont entrés dans Paris. Cessez de rire, charmante Elvire, sans loup sont entrés dans Paris. Le deuxième n'avait que 3 pattes, c'était un loup gris des Carpates qu'on appelait Carême Prenant. Il fit faire grâce ses enfants et leur offrit 6 ministères et tous les gardiens des fourrières. Alors, loups, oh, 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 les loups ont envahi Paris, soit par ici, soit par Ivry. Les loups ont envahi Paris. Cessez de rire, charmante Elvire, les loups ont envahi. Attiré par l'odeur du sang, il en vint des mille et des cent faire carousse, yes et bonbons dans ce foutu pays de France. Jusqu'à ce que les hommes aient retrouvé l'amour et la fraternité. Et alors,
partie de Paris. Soit par ici, soit par ici. Les loups sont sortis de Paris. Tu peux sourire, charmante Elvire. Les loups sont sortis de Paris. J'aime ton rire, charmante Elvire. Les loups sont sortis de Paris.
Par Serge Reggiani. Alors donc, toi qui es prof d'histoire, ça parle des Allemands qui ont envahi la France. Et est-ce que, juste une question en tant que prof d'histoire, pourquoi on fait l'apologie de Napoléon qui a fait 100 fois pire à Hitler au niveau d'envahir tous les pays pour devenir le roi du monde, à ton avis?
Alors, moi j'ai horreur de Napoléon. et donc
100 fois pire, on peut pas dire.
Je me rappelle
massacrer des tas de gens et pour devenir le roi du monde, était pire dans sa tête qu'Hitler.
Tout à fait. Et donc je traitais Napoléon en cours d'histoire, je traitais surtout le despotisme napoléonien.
Ah ben voilà.
Donc voilà. Donc alors si
déjà après, très engagé à l'époque.
Après la résistance comme prof d'histoire, on avait chaque année le concours de la résistance, où on faisait venir des résistants, villefranchois, et donc et les élèves, ceux qui le voulaient, les volontaires, faisaient au dernier moment, ils avaient un thème sur la résistance et ils devaient faire une copie, on sélectionnait ensuite, et puis au niveau départemental, on prenait le meilleur, quoi. Bon, voilà. Donc résistance, moi, a été pour moi quelque chose de très important. Et donc à l'Université des Savoirs Partagés, on a fait venir Laborie, là, qui nous a parlé effectivement de l'évolution de l'opinion publique pendant la guerre, comment on est passé de maréchal, nous voilà à De Gaulle. Donc ça, c'était intéressant. Et puis j'avais des collègues de Rodez et de Sainte-Afrique qui ont fait des études sur ce qui s'est passé dans l'Aveyron pendant la résistance. Mmh. Donc ils ont écrit des livres là-dessus. Et donc je me suis intéressé un petit peu à ça. Voilà.
D'accord. Alors donc t'es passé de maréchal, nous voilà à De Gaulle, et De Gaulle et la guerre d'Algérie.
Alors, De Gaulle et la guerre d'Algérie. Alors, j'étais un des socialistes admirateurs
de De Gaulle.
Absolument. oui, parce qu'effectivement, De Gaulle, d'où il est parti, un père monarchiste, et donc c'était une personnalité extraordinaire. À mon avis, c'est un de ceux qui a marqué ce XXe siècle. Donc. Alors bon, à l'époque, j'ai eu ma petite phase anti-gaulliste, mais
oui, quand il disait, par exemple, moi, mon grand-père était d'Oran, il avait dit que l'Algérie française, il y croyait, et puis après, il voulait tuer De Gaulle tellement.
Oui, alors je comprends
qu'ils avaient menti tout ça, ces gens-là.
Oui, mais. Moi, je me rappelle de l'opinion publique à l'époque, et donc moi, l'Algérie, c'est quelque chose que j'ai beaucoup suivi parce que mon père avait fait son service militaire en Algérie. Il avait été ébloui par l'Algérie et ils étaient partis avec ma mère en voyage de noces en Algérie à l'époque. Et ma sœur a été institutrice en Algérie. Donc cette affaire-là, je l'avais suivie. J'ai manifesté quand j'étais étudiant pour la paix en Algérie, etc. Tout ça, mais l'historien. Le professeur d'histoire, soyons modestes, mais le professeur d'histoire finalement pense que il y avait que De Gaulle qui pouvait finalement mettre fin à cette guerre et alors moi je lui reproche son attitude vis-à-vis des harkis parce que là il les a laissés massacrer. Ça c'est le point noir, mais sinon j'ai une grande admiration pour ce personnage.
Si je te parle de ça, c'était le début de ton engagement, donc.
Oui.
Parce qu'on va parler maintenant de tous tes engagements.
Quand j'étais étudiant, effectivement, oui, c'est la guerre d'Algérie qui m'a marqué, quand j'étais à l'UNEF, oui.
Quand tu parles des savoirs partagés, ça fait partie de tes engagements, parce que moi je ne sais pas du tout ce que c'est.
Oui, c'est à ce que tu dis, oui, il faut partager. Peut-être expliquer aux gens qu'est-ce que c'est cette université.
Alors, donc, alors ça, effectivement...
Là, c'est très actuel, ça.
C'est très actuel, voilà. Oui. Eh bien, donc, quand on est revenu de Madagascar...
Alors,
avec
attends,
ma femme,
on va peut-être revenir un petit peu sur ton enseignement. Et tu as enseigné quelques années à Dunkerque, après tu es venu à Villefranche.
Oui.
Et tu as enseigné que à Villefranche après, ou bien tu es...
Oui, tu es reparti après Dunkerque, effectivement.
Jusqu'au moment de ta retraite, tu es resté à Villefranche.
Voilà, je suis resté à Villefranche.
Ta retraite et après, date d'il y a 10 ans. Donc.
Voilà. Oui. Et après, qu'est-ce que tu as fait? Tu es parti un petit peu quand même. Enseigner, même après.
Et alors, donc, après ma retraite, oui. Alors, il faut expliquer que j'ai été marqué par un prof en fac qui était passionné par les problèmes du tiers-monde. C'était Bernard Kayser. Et donc. Pendant toute ma carrière, je prenais toujours, parce que je fais l'essentiel au tricot, et je prenais toujours des classes de cinquième, parce que là, on parlait de l'Afrique, de l'Asie, des pays du tiers-monde. Et donc, j'avais beaucoup lu sur toute cette évolution du tiers-monde, mais il me manquait l'expérience du terrain. Je voulais comprendre comment les gens vivaient et pourquoi ils pouvaient pas s'en sortir. Donc j'avais un ami qui à l'époque était au PSU qui s'appelait Paul Durand, qui avait passé quelques années à Madagascar, c'est un amoureux de Madagascar, Paul Durand. Et donc il avait organisé avec des gens du Secours Populaire, parce que j'étais au Secours Populaire, une visite à Madagascar où on faisait du tourisme et on faisait aussi de l'humanitaire. Et donc, on avait été visiter une maraîchère. Et donc, je me suis dit, à la retraite, je partirai donner un an à Madagascar.
D'accord. Et c'est ce que tu as fait ?
Et c'est ce que j'ai fait avec Alors mon problème, c'était que ma femme était plutôt orientée vers les pays du Nord.
C'est là-bas qu'on disait « tête à nana arrive ». C'est ça, non ?
Oui,
c'est... Et il y a eu quand même un retour avec ton papa, si tu es allé voir des maraîchers. Le lien, il y a quand même.
Oui, tout à fait. Et donc... donc je voulais aller dans l'enseignement public à Madagascar... Parce que je leur avais dit, je savais que c'était un pays très très pauvre, donc je leur avais dit, je paie mon voyage, je demande aucun salaire, mais vous me logez. Et ça n'a pas marché avec l'enseignement public. Donc j'ai été dans un enseignement privé. Avec des bonnes sœurs, à Antsirabe, et j'étais le seul blanc, donc là-dedans. Et je m'y suis plus parce que donc je faisais des cours en première. J'avais 60 élèves à l'époque.
Wow.
Mais ça s'est très bien passé. À la différence, alors qu'à la fin, par rapport à mes débuts de carrière, le style des élèves avait changé. Et donc. Non, j'étais agacé par des élèves qui finalement subissaient les cours mais s'intéressaient pas beaucoup.
D'accord.
Tandis que là-bas, oui, beaucoup plus. Et donc il y avait pas de problème de discipline. Ils avaient compris que l'ascenseur social, c'était l'école.
Et oui, bien sûr. Et oui.
Bon, voilà.
Et oui.
Donc
une colonie, Madagascar.
Comment ?
Est-ce que c'est
une ancienne colonie française. Donc ils parlaient. Alors à un moment donné, ça avait été malgachisé l'enseignement. C'est pour ça qu'ils avaient des difficultés en français. Ils faisaient beaucoup de fautes d'orthographe dans les copies. Bon, quand je corrigeais, il y avait beaucoup de rouge, donc ça m'a intéressé pendant un an et surtout que c'était des il y avait aussi la géographie de Madagascar que j'avais étudié avant, donc j'avais aucune difficulté, et puis j'enseignais le 20e siècle, la guerre de 14, la guerre de 39.
D'accord.
pareil qu'en France, donc c'était.
Et là tu es parti un an tout seul
avec ta femme.
Elle est venue aussi. D'accord.
Ah oui, j'ai dit c'est la condition, tu me suis. Et donc Et donc ça. Alors elle voulait s'occuper d'alphabétisation, mm-hmm. et puis ça pas marché. Parce qu'elle a été partout, on lui a dit oui, c'est magnifique, et puis finalement, on n'a pas donné suite. Et elle a enseigné après dans le primaire. Elle.
D'accord.
Et moi, j'étais dans le. Donc
chouette. Oui. Super.
Donc ça s'est bien passé, et puis j'ai fait quelques conférences là-bas aussi.
Ouais, oui, d'accord.
Donc
qui dit conférence, nous arrivons tout doucement.
Oui. Oui, après, donc, revenu de Madagascar. Donc c'est ma femme qui a eu cette idée de, elle dit, ce qui manque à Villefranche, c'est des conférences. Il y en avait quelques-unes sur l'histoire locale, hein, mais pas. Et donc on a choisi des conférences qui parleraient un peu de tout, d'économie, de philosophie, d'histoire, de civilisation, et on s'est lancé là-dedans. Et au début, on nous a dit, il faut faire vos preuves pour qu'on vous aide financièrement. Et on a fait venir des copains de fac, qui venaient gratuitement, qu'on logeait à la maison, etc. Et puis ça a marché, finalement. C'était une aventure de se lancer là-dedans. Mm-hmm. Et puis là, maintenant, ça fait la sixième année. Et donc.
Vous avez créé une association?
On a créé
une s'appelle
l'Université
des savoirs partagés.
L'Université des savoirs partagés.
Oui, des savoirs partagés.
D'accord. Et ça se fait à Villefranche quand, ça, par exemple?
Alors, ça se fait deux fois par mois, sauf pendant les vacances scolaires. Mmh. Et ça se fait ou à Beauregard, ou... On a commencé par l'amphithéâtre de Rue, un petit amphithéâtre à Rue.
Mmh. Ben, ça tombe bien, parce que tu as choisi d'écouter les vieux.
Oui, parce Jacques qu'après, Brel. Ça a été un autre engagement.
Mais on va en parler après.
J'ai connu avec Cathy.
Oui. On va en parler après.
Ça, donc. Oui.
Alors,
les
c'est
vieux.
Quoi qu'on écoute?
Ah, les vieux de Jacques Brel. C'est ton
d'accord.
chanteur préféré.
Absolument.
Les vieux ne parlent plus, ou alors seulement parfois du bout des yeux, même riches, ils sont pauvres, ils n'ont plus d'illusions et n'ont qu'un cœur pour deux. Chez eux, ça sent le thym, le propre, la lavande et le verbe d'antan. Que l'on vive à Paris, on vit tous en province quand on vit trop longtemps. Est-ce d'avoir trop ri que leur voix se lézarde quand ils parlent d'hier? D'avoir trop pleuré que des larmes encore leur perlent aux paupières? Et s'ils tremblent un peu, est-ce de voir vieillir la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui dit je vous attends? Les vieux ne rêvent plus, leurs livres sans sommeil, leurs pianos sont fermés, le petit chat est mort, le muscat du dimanche ne les fait plus chanter. Les vieux ne bougent plus, leurs gestes ont trop de rides, leur monde est trop petit. Du lit à la fenêtre, puis du lit au fauteuil, et puis du lit au lit. Et s'ils sortent encore, bras dessus, bras dessous, tout habillé de raide, c'est pour suivre au soleil l'enterrement d'un plus vieux, l'enterrement d'une plus laide, et le temps d'un sanglot oublié toute une heure, la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, et puis il les attend. Les vieux ne meurent pas, ils s'endorment un jour et dorment trop longtemps.
ils se tiennent la main. Ils ont peur de se perdre, ils se perdent pourtant. Et l'autre reste là, le meilleur ou le pire, le doux ou le sévère. Cela n'importe pas, celui des deux qui reste se retrouve en enfer. Vous le verrez peut-être, vous la verrez parfois en pluie et en chagrin, traverser le présent en s'excusant déjà de n'être pas plus loin, et fuir devant vous une dernière fois la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui leur dit je t'attends. Qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, et puis qui nous attend.
Et donc le rapport avec Ruhe ?
Alors le rapport avec Ruhe, quand j'étais au Secours Populaire, dans les différentes activités, il y avait cette visite que certains faisaient tous les lundis de 2h à 4h avec les personnes âgées de Ruhe. Et puis là, ça m'a poussé à aller plus loin. Parce que là, on ne pouvait pas aller dans les chambres, on les avait dans un local commun. Et il y a une infirmière de rue qui m'a dit, vous devriez aller plus loin, il y a une formation. Et donc, c'est comme ça que j'ai connu l'association des soins palliatifs. Voilà. Donc on a fait une petite formation là-dessus et puis ça m'a intéressé, j'ai été à la Chartreuse, à Ruhe, à Rignac aussi pour les paralysés de France. Donc et ce contact avec les personnes âgées, c'est quelque chose qui me touche. Je trouve que ça passe bien, que bon, je me sens à l'aise. Alors moi, je regrette à Ruhe, c'est bien parce que on a un contact suivi pendant plusieurs semaines. À la Chartreuse, généralement, au bout de 2 semaines, les malheureux, c'est des fins de vie, ils ont le cancer et ça dure pas longtemps. On nous appelle trop tard.
Il y a quand même beaucoup à faire en Corée sur la fin de vie, quand même.
Oui, absolument. Donc je pense que la fin de vie, les dernières enquêtes là. Il va y avoir encore une avancée pour permettre aux gens de finir leur vie peut-être par une sédation, une sédation les endort et puis progressivement.
Qu'est-ce que tu penses de ce qui vient de se faire en Belgique, un multi-récidiviste violeur qui a demandé à ce qu'on l'euthanasie? Et c'est le gouvernement a accepté, il va être euthanasié.
Oui, moi je suis pas partisan de l'euthanasie.
Et quand on est-ce qu'on peut être à la fois l'euthanasie et catho? Non, c'est ce que j'ai dit.
Et non.
Voilà. Ben non, pas trop.
Et l'avortement non plus. Donc.
Alors, personnellement, je serais pas pour l'avortement, mais. Malheureusement, il y avait des femmes qui se faisaient avec des aiguilles à tricoter et ça se finissait très mal. Donc j'impose pas mes convictions parce que je suis laïque. Je suis absolument pour la possibilité de l'avortement. Mais personnellement, non. Mais j'impose pas ma morale à tout le monde.
Juste une toute petite parenthèse, après je laisse toute la question à Cathy.
Non, c'est pas ça, c'est que le temps passe très vite.
C'est juste, qu'est-ce que tu penses en tant que catho et en tant que socialiste, en tant que mec de gauche, que Valls reconduisait tous les Roms à la frontière, les foutait dehors, et que là, ils viennent de dire que c'était une honte qu'on ne veuille pas enterrer un petit gamin Rom. Tu trouves pas que c'est un peu rigolo, quand même?
Si. Alors, écoute, je vais tout dire, moi. Alors, c'est ce qui m'a choqué, l'attitude de Valls sur les Roms. Vraiment, vraiment, j'ai été choqué. Alors que je suis social-démocrate et que Valls, pour moi, ça me va très bien. Mais là-dessus, sur les Roms, alors là, je suis en désaccord total.
Tout à fait.
Allez, voilà, c'est dit. C'est dit. Non, non, c'est qu'il reste que 3 minutes et que j'aurais voulu qu'on parle un petit peu plus de l'université, des savoirs partagés, expliquer aux gens comment ça se passe, où trouver le programme, où te contacter, etc., etc. Voilà. Alors, on t'écoute.
Alors, l'université des savoirs partagés, ça existe depuis 6 ans. Donc c'est à peu près 2 fois par mois, sauf pendant les périodes scolaires.
Voilà, où, il y a une conférence
voilà,
2 fois par mois.
Voilà, qui se fait souvent à Beauregard, parfois au théâtre, parfois au Vox, parfois à Rue. On fait surtout des ateliers à Rue.
D'accord. Hein.
Mais donc, ce sont souvent des spécialistes, des universitaires sur...
différents sujets, hein.
Sur différents sujets.
Beaucoup de sujets sont abordés.
Ça peut être l'économie, ça peut être la philo, ça peut être l'histoire, ça peut être les civilisations, l'Inde, la Chine, etc. C'est très varié. C'est très varié. Et donc, on a un noyau dur d'une 60aine de personnes qui sont fidèles pratiquement à presque toutes les conférences.
Ouais.
Et puis après, ponctuellement, il y a des gens qui viennent parce que tel sujet les a intéressés.
D'accord. Comment c'est les programmes?
Voilà. Alors, trouver le programme?
Alors, on le trouve rue Bory.
D'accord.
Tout à fait en haut de la rue Bory, à côté des arcades, là. Donc, là, il y a des permanences. Le mardi après-midi de 3 à 6, le mercredi après-midi de 3 à 6, le jeudi de 10 à 12 et le vendredi de 10 à 12.
D'accord.
Donc là, ils peuvent se procurer le programme. Et donc, mais même si on met des affiches partout, on fait des articles dans les journaux.
Est-ce que vous avez un site sur Internet ou...
Oui, il y a un site sur Internet.
Donc, on cherche université du savoir, des savoirs partagés.
Oui, ils le trouveront sur le programme, le site.
Ah, ben
et
voilà.
Donc, ils peuvent... Et même quelquefois, on fait des comptes rendus conférences.
D'accord.
Voilà, donc ça marche bien, puisqu'il y a 260 adhérents. Donc,
super.
Je crois que ça correspondait à un besoin.
Oui,
et donc,
tout à fait.
On est tout contents.
Eh bien, on souhaite que ça grossisse
absolument,
de plus en plus
absolument.
Et que les gens découvrent, ceux qui ne connaissent pas, bien sûr.
Il reste une minute. Qu'est-ce que tu peux dire pour ta défense?
Pour ma défense.
Non, comme vœu pour l'année, quoi.
Ah, comme vœu pour l'année. Eh bien, je crois que ça va être une année importante politiquement. Je ne sais pas du tout comment ça va évoluer, parce qu'il y a quelques inquiétudes, quand même. Moi, je suis un peu effrayé par cette montée d'extrême droite, ça, c'est sûr. Et puis, je suis aussi inquiet... par rapport au pape, parce que pour moi, le Concile Vatican II et le pape d'aujourd'hui, c'est une ouverture formidable. Et je voudrais pas que la mafia italienne ou les djihadistes ou il y a aussi au Vatican des cardinaux qui ne l'aiment pas du tout. Et lui, il va très loin dans ses critiques de la curie. Et je voudrais que ça se continue bien, parce que là, on a
ouverture.
On va vers une ouverture formidable.
Bon, ben voilà.
Ben voilà, l'émission est terminée. Mais ouais, on te fera revenir, parce que tu as plein de choses très intéressantes à parler.
Non,
je te souhaite une bonne année. Bonne année à
Lisa. Merci.
Bonne année, Cathy.
Bonne année à tous.
Ben, j'aimerais
merci
terminer
beaucoup,
sur une citation de François Hollande d'hier, qui dit « Le chemin, c'est là où ça mène ». Voilà, ça veut rien dire, mais ça m'a bien fait rire, quand même. Voilà.
Merci
bonne
beaucoup,
année à tous.
Bernard.
Bonne année à toi.
Merci d'être venu. À la semaine prochaine.
Oui.
Vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà, que cela passe vite, 11 ans. Vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes. noir de barbe et de nuit, hirsute, menaçant. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles. Il cherchait un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Et les mornes matins en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre. À la fin février, pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement « Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. » Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses. Quand tout sera fini plus tard en arrivant. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants, ma Mélinée, oh mon amour. Mon orpheline, et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent, 23 qui donnaient leur cœur avant le temps. 23 étrangers, nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre à en mourir. 23 qui criaient la France en s'abattant.
Et si on en parlait, une émission parrainée par Hydropièce, concepteur de solutions hydrauliques, zone industrielle des Gravasses, Villefranche-de-Rouergue. Quand il y a de l'eau dans le gaz, une seule adresse, Hydropièce.